Nous lisons dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres au chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qu'il allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, il dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 8. À partir du premier verset, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Et nous allons lire notre passage de base, c'est le psaume 137. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Nous nous arrêtons là. Je vais expliquer le psaume 137. Il y a eu guerre entre le royaume de Babylone et Israël et Juda en particulier, le royaume de Juda, composé de deux tribus, de Juda et de Benjamin. Ils ont perdu la guerre, les Juifs, et ils ont été emmenés, déportés à Babylone en captivité. C'est ce que ce psaume-là décrit. Mais Dieu avait promis par Jérémie qu'après 70 ans, il les ramènerait à Jérusalem. Mais là, nous vivons, pas la fin de la captivité, un certain temps, on vit un certain temps pendant la captivité. Donc, ces gens-là, donc nous recommençons à lire. Sur les bords des fleuves de Babylone, là maintenant les Juifs sont à Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, ça veut dire Jérusalem. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Jérusalem, de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Maintenant, les oppresseurs, c'est-à-dire les Babyloniens, les gens du pays, demandaient aux Juifs de chanter. Chantez-nous quelques cantiques de Sion. Et quelle était la réponse? Verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Pourquoi ils ne pouvaient pas chanter vraiment sur une terre étrangère? Parce qu'il s'agissait des cantiques de Dieu, des cantiques de l'Éternel. Et Dieu avait prescrit un culte en sa faveur. Ce n'était pas interdit de chanter chez soi à la maison. Mais il y avait un culte à Dieu qui se faisait dans le temple de Jérusalem. Et David avait même institué des chorales qui chantaient à tour de rôle. Vous souvenez du chant « Bénisse le Seigneur, levez le main vers lui. » Donc ceux qui, vous tous serviteurs du Seigneur, vous qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Donc il y avait des gens qui allaient chanter aussi la nuit, qui allaient prier la nuit. Il y avait des tours. Donc il y avait le culte de l'Éternel à Jérusalem, dans le temple. Et pour les Juifs, le lieu du culte, c'était le temple. C'était comme si Dieu était identifié, était lié au temple. Et maintenant, ils sont amenés captifs à Babylone, on leur demande de chanter. Et ils disent, mais non, les chants de Dieu, les chants de l'Éternel sont prévus pour le temple. Ils ne sont pas prévus pour plaire aux Babyloniens. Ils ne sont pas prévus pour satisfaire les Babyloniens. C'est pour le temple. C'est pour l'Éternel. Et l'Éternel veut être adoré dans son temple. Nous nous souvenons de Jésus qui a chassé les vendeurs du temple. Le temple était étroitement lié à Dieu lui-même. Et là, ils se retrouvent à Babylone. On leur dit, mais faites quand même quelque chose. Chantez. Chantez pour nous des cantiques de Dieu. Ils disent, non. Nous ne sommes pas à Jérusalem. Ce chant-là, c'est pour Jérusalem. Et ils avaient suspendu leurs instruments de musique sur les arbres, sur les saules. Et ils étaient dans la souffrance. Et lisons les deux versets qui nous intéressent vraiment aujourd'hui. 5 et 6. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Alors, ces gens-là ont dit la phrase suivante. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, donc que Dieu lui aussi m'oublie, en quelque sorte. Je ne dois pas t'oublier, Jérusalem. Si je ne fais de Jérusalem le sujet de ma joie, si je ne me souviens de toi, que Dieu aussi m'oublie. Le temple, c'était le lieu du culte à l'Éternel. Aujourd'hui, pour nous, le temple, ce n'est plus un lieu spécial. Ce n'est pas ces bâtiments. Aujourd'hui, il est dit de nous que nous sommes le temple de Dieu. Et le royaume de Dieu est au milieu des enfants de Dieu. Pour nous, Jérusalem, ce n'est pas seulement une ville. Pour nous, Jérusalem représente Dieu lui-même, représente la gloire de Dieu. Dieu a établi son temple à Jérusalem afin de manifester sa gloire. Et Jérusalem aujourd'hui pour nous, ça symbolise la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est ce qu'il a fait comme exploit dans le passé aussi. C'est ce qu'il a donné comme promesse dans sa parole. La gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le niveau glorieux de Dieu qu'on retrouve dans sa parole. C'est ça la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens en train de payer de l'argent pour assister à des concerts, entre guillemets, chrétiens. Moi, je dis, bien-aimé, il ne faut pas oublier Jérusalem. Il ne faut pas oublier qui est Dieu. Il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Et les gens, ils vont payant, sachant bien que les musiciens qui font ces musiques-là, entre guillemets chrétiennes, le font pour l'argent. Ces Juifs-là ont dit, nous, on ne peut pas oublier Jérusalem. Nous sommes tentés de faire une adaptation du culte ici à Babylone. Mais non, si on ose faire ça, Dieu oublie nous aussi. Le culte, c'est à Jérusalem. Et les chrétiens d'aujourd'hui sont tentés de s'adapter. On les pousse à s'adapter, à dire c'est la vie, c'est comme ça. Le monde, c'est comme ça. Il faut de l'argent pour tout. Donc pour louer une salle, il faut de l'argent. Il faut des instruments pour entrer en studio. Donc il faut qu'on fasse du commerce avec les choses de Dieu. Et vous allez voir de, entre guillemets, bons chrétiens vous dire, mais frère, c'est comme ça, si on ne fait pas ça, comment on va faire? C'est faux, bien-aimé. Ces gens-là ont dit, peu importe qu'on soit à Babylone, riche ou pauvre, le temple, le culte, c'est à Jérusalem. Nous n'allons pas chanter les cantiques de Dieu dans une terre étrangère. Nous refusons. Et certains chrétiens m'ont dit, mais oui, mais pour ne pas choquer les membres de ma famille, pour ne pas choquer les gens de mon entourage, lorsqu'on m'invite à un baptême de bébé dans un temple catholique, j'y vais, mais moi je ne prie pas avec eux, mais j'y vais simplement. Moi je dis, mais non, nous ne pouvons pas chanter les cantiques de Dieu, chanter les cantiques de l'Éternel à Babylone. Ils ont dit, nous on ne va pas oublier Jérusalem. Vous savez que le judaïsme, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, donc ce n'est pas un judaïsme qui est dans la Bible, c'est un judaïsme inventé par les rabbins. Ça a commencé à Babylone. Le Talmud, ce qu'on appelle le Talmud de Babylone. C'est un livre qui contient les enseignements des rabbins qui venaient de Babylone. Et ces gens-là, plus tard, ont combattu Jésus. Parce que tout ce que nous sommes en train de lire ici, c'est avant Jésus. Ces gens-là, plus tard, ont combattu Jésus. Et ces gens-là, aujourd'hui, avec ce livre-là, Talmud de Babylone et autres Talmud, c'est eux qui dirigent les Juifs aujourd'hui, qui les empêchent de croire en Jésus. Donc, quand on entend ce que nos Juifs qu'on lit là, dire qu'ils ne veulent pas célébrer Dieu ailleurs qu'à Jérusalem, ils avaient raison. Ils savaient que s'ils s'adaptaient à Babylone, il s'éloignerait de Dieu. Et aujourd'hui, le judaïsme s'est éloigné de Dieu parce qu'il y a eu adaptation, entre autres à Babylone. Certains ont choisi de rester à Babylone et de s'adapter. D'autres ont dit non, nous on chantera. Et ils ont suspendu leur harpe sur les arbres et dit nous on ne chante pas ici. On chantera à Jérusalem. Même s'il faut attendre 70 ans de retour, nous chanterons à Jérusalem. Mais il y en a qui ont choisi de s'adapter à Babylone. Bien-aimés, avec le Seigneur, il n'y a pas de compromis. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits parce qu'il sait que nous sommes imparfaits. Mais il veut des gens qui le respectent, qui honorent ce qu'il dit, qui croient en ce qu'il dit et qui sont prêts à le suivre dans ses termes à lui, Dieu, pas dans leurs propres termes. Dieu avait fixé que le culte, c'était au temple. Ce n'était pas à Babylone. Même s'ils étaient déportés pour 70 ans, ceux-là ont dit, nous, on refuse de chanter le cantique de l'Éternel dans une terre étrangère. C'est pourquoi moi, quand je vois qu'un musicien chrétien, c'est un commerçant, je n'écoute plus ces cantiques au nom de Jésus. Je refuse de chanter le cantique de Dieu dans une terre étrangère. Il y a des chrétiens qui disent, mais pourquoi pas? Mais continuez à vous adapter à Babylone, ça finira mal. On a vu même dernièrement une veillée du 31 décembre, dans une église payante, bien-aimée. Et les gens vont payer pour aller prier Dieu. Où tu as vu ça dans la Bible? C'est l'adaptation. On se dit, mais on a loué une salle. Comment on a loué ça? Mais qui vous a demandé de louer une salle? Ces Juifs ont été fermes. Nous refusons de nous adapter à Babylone. Nous attendrons de faire le culte à Jérusalem. Ils ont suspendu les harpes. Chanter ne suffit pas. Mais où est-ce que tu chantes? Dieu avait dit que c'était au temple. Et aujourd'hui, Dieu veut qu'on chante en esprit, en vérité. Dans le psaume 33, verset 1er, c'est écrit, « La louange va avec les hommes droits. » Ça va ensemble avec les hommes droits. Nous ne devons pas chanter parce qu'il faut remplir le temps de culte. La louange va avec les hommes droits, sied aux hommes droits. C'est ce qui est écrit. Psaume 33. Lisons rapidement. Psaume 33, verset 1er. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Amen. Où est-ce que je vais chanter Dieu? C'est à Jérusalem. Dans la logique de Dieu, dans l'esprit de sa parole, c'est comme ça que je vais le chanter. Ce n'est pas pour que les gens sentent que je chante, ce n'est pas pour que moi-même je sois convaincu que je chante, mais selon les termes fixés par Dieu. Et il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Il ne veut pas d'hypocrisie. Il faut être clair avec lui. Et lui dire qu'on est fatigué, qu'il nous donne la force pour l'adorer en esprit et en vérité. Il ne faut pas faire semblant. Il faut parler avec lui dans la vérité, dans la transparence. C'est ça, Jérusalem. Vous savez, quelque chose de sournois et de pire encore, parce qu'il y a des choses qu'on peut dénoncer qui sont simples. Nous connaissons tout ce qu'on voit aujourd'hui, le commerce dans les choses de Dieu. Le mélange dans les choses de Dieu. Ésaïe 5:20, on commence à appeler le mal bien et le bien mal. Ce sont des choses visibles aujourd'hui. Mais il y a pire encore, quelque chose de sournois. C'est le fait que pour beaucoup, ils sont déjà en accord avec Dieu. Et ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ces gens-là se sont adaptés à eux-mêmes. Ils ne se sont pas adaptés peut-être à une ville, à Babylone, mais ils se sont adaptés à eux-mêmes. Ils sont des propres justes. Ils pensent qu'ils font déjà ce qu'il faut. Et quand le Saint-Esprit leur demande plus, ils refusent. Dans leur tête, considérant qu'ils font déjà ce qu'il faut. Les églises aujourd'hui sont remplies de gens qui pensent que le plus important, c'est de venir le dimanche ou le vendredi, prier ou le mardi. Et puis c'est bon. Du moment que j'ai honoré le bâtiment, j'ai honoré Dieu. C'est faux. Ça, c'est l'adaptation à Babylone. Le temple, il est écrit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est nous le temple. 1 Corinthiens 3:16. C'est nous le temple. Ce n'est pas un bâtiment qui est le temple. C'est nous qui est le temple, qui sommes le temple. Et lorsqu'on se réunit ensemble, ensemble aussi nous constituons un temple. Mais c'est nous les humains qui constituons un temple, réunis. Et j'ai visité 2 personnes en Guyane à cause de leur handicap, les chrétiens. Sur place, ne les visite même pas. Mais ces 2 chrétiens-là, autrefois, c'était des gens qui ont travaillé pour beaucoup d'églises, qui ont aidé beaucoup de frères et sœurs chrétiens en les amenant en voiture, dans les cultes, dans les séminaires. Mais maintenant qu'ils ne sont plus opérationnels, personne ne les visite. Il y a un même qui a pleuré parce que ça faisait longtemps qu'il avait été visité. Voilà le christianisme babylonien où les gens pensent que remplir une salle, c'est ce qui fait quelque chose. Où ils pensent que chanter dans une salle avec beaucoup d'autres chrétiens, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas que ça. Le vrai temple, c'est nous-mêmes. Et ces gens-là sont délaissés comme ça. Personne ne les visite. Mais le chrétien qui va tout le temps le dimanche au culte, qui fait partie de l'accueil, mais il croit qu'il fait bien. Il croit qu'il fait bien. Mais Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Le Seigneur ne nous a pas appelés qu'à faire un culte ensemble. Il nous a appelés à être le sel de la terre. On est aussi parti voir un clochard, mais qui faisait partie de la famille de notre sœur. Au début, il a résisté. Mais quand on l'a vu le deuxième jour, encore, le premier jour, on lui a donné la nourriture. Le deuxième jour, on lui a amené la Bible. Et on lui redonne encore la nourriture. À un moment donné, il ne savait pas, mais on l'a vu en train de lire sa Bible et son visage commençait à changer. Bien-aimé, le culte de Dieu, ça ne consiste pas à remplir une salle, mais ça consiste à confier sa vie à Dieu totalement. C'est ça le vrai culte. C'est écrit dans Romains 12, nous allons lire. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le culte de Dieu, c'est s'offrir soi-même. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils font déjà ce qui est bien. J'ai été dans une église quand c'est arrivé au moment de la scène, une église avec un grand bâtiment. Bien-aimé, il fallait voir, je ne sais pas si c'était des diacres, mais les hommes qui devaient distribuer la Sainte-Cène, on avait l'impression d'être au Sénat ou bien au Parlement, la façon dont il s'est déplacé pour aller dans le bureau préparer la Sainte-Cène, on avait l'impression que c'était les huissiers du Sénat. Bien-aimés, c'était des grands, des barons. Parce que c'est un grand bâtiment, beaucoup de monde, et être distributeur de Sainte-Cène dans ces conditions-là, tu sentais, bien-aimés, ils n'avaient pas besoin de parler, mais tu sentais l'orgueil sortir comme une fumée, quoi. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur façon seulement de marcher pour se diriger dans le bureau pour faire la Sainte-Cène préparée, tu te dis voilà. Alors qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus venir au bâtiment, qui ne sont pas visitées, mais on accepte quand même leur dîme, offrande qu'ils envoient par la poste. Mais on ne les visite pas. Ça, ce n'est pas Dieu tout ça. C'est la logique de Babylone. On veut profiter d'une salle, remplir une salle et paraître extraordinaire. Ce n'est pas cela. Il fut un temps où on était impressionné par l'église en Argentine. On invitait les serviteurs argentins dans le monde entier parce qu'on apprenait que là-bas, les églises se remplissaient. Il faisait des exploits. Mais ça, c'était l'apparence. Dieu connaissait la réalité que c'était Babylone. En réalité, qu'est-ce qui se passait là-bas? C'est que les églises étaient remplies, oui, parce que c'était devenu un succès d'être chrétien. Vous savez, quand Constantin est devenu empereur, au 4e siècle, il dit qu'il se convertit au christianisme. Et il commence à favoriser tous ceux qui sont chrétiens. Le nombre de chrétiens a augmenté terriblement, puisque quand tu deviens chrétien, c'est là que tu es favorisé par l'État. Mais c'était des faux chrétiens. Et parfois, on peut voir qu'il y a du nombre. Mais pourquoi il y a du nombre? Mais parce que le système du pays est tel que là où tu te dis chrétien dans un bâtiment grand, mais c'est là que tu vas trouver aussi des gens qui peuvent t'embaucher, des gens qui peuvent t'aider. Et l'Église argentine était devenue un modèle dans le monde entier. Mais en réalité, c'était à cause du nombre. Ce n'était pas à cause du témoignage du comportement des chrétiens, mais c'était parce que ça se remplissait. Mais quand il y a eu la crise économique en Argentine, peu de temps après, l'Argentine a connu une crise terrible. Et tous les chrétiens du monde et d'Argentine se sont posé la question, comment nous sommes en train de vanter l'Église d'Argentine? Et aujourd'hui, ils connaissent, le pays connaît une telle crise, à tel point qu'il y a eu des émeutes à cause de la pauvreté et de la souffrance. Après, d'autres livres sont sortis pour dire la réalité. En réalité, c'était l'esprit de Babylone. Vous allez voir dans une église, un homme diacre et sa femme diaconesse, ils étaient bien habillés à l'église, souriants, mais à la maison, ils ne se parlaient pas. La vraie vie, c'est partout. Ce n'est pas une question de produire un sourire commercial dans un bâtiment, mais c'est être réellement souriant partout, heureux partout, parce que le Saint-Esprit est en nous. Les réalités ont commencé à sortir. Les scandales sont sortis. Et on a compris que tout ce qu'on voyait là, le nombre, c'était que de l'apparence. Dieu les a jugés. Il a démontré par la crise économique en Argentine que même l'Église était en crise, mais l'apparence du nombre ne montrait pas cela aux gens qui étaient étrangers. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de Jésus. Quel culte tu fais à Jésus, à Jérusalem ou à Babylone? Il est écrit, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Soyons comme Jésus, soyons dans ce standard-là. Soyons dans le modèle de Jésus. Que personne ne nous change de modèle. Dernièrement, quand j'ai dit ce que j'ai dit concernant tous ceux qui vont dans les baptêmes ou à cause des enterrements, ils entrent dans des bâtiments catholiques. Il y a une dame qui a failli sauter tellement elle était en colère. Mais non, c'est pas... Mais moi, je dis, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? On ne doit pas faire 2 Corinthiens 6, 14. On ne doit pas faire avec les infidèles un mélange disparate. Oui, mais moi, je n'adore pas ces idoles-là. Mais tu entres là où des gens adorent les idoles. C'est encourager le mal. Oui, mais moi, je suis l'aîné de la famille. Mais bien aimé, est-ce que si on te dit, puisque tu es l'aîné, bois le poison, tu vas boire? Tu ne vas pas boire, hein, parce que tu es l'aîné. On te dit, allez, voilà, comme tu es l'aîné, bois ce poison-là. Comme ça, nous, on va comprendre comment ça agit, nous, les jeunes. Tu ne vas pas boire, hein. Ah, je suis l'aîné de la famille, je n'ai pas la chose. Quand mon père va mourir, je vais faire comment? Mais qui a dit, bien-aimé, si en entrant dans un bâtiment catholique, les morts ressuscitaient, on n'allait plus comprendre. Bon, j'entre puisque le mort va ressusciter. On aurait encore pu comprendre que l'intérêt de voir le mort ressuscité te conduit à ça. Mais il n'y a aucun intérêt, les morts sont morts. La Bible dit les morts sont morts. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Comment pour quelqu'un qui est mort, toi tu vas corrompre ton âme vivante? Réfléchissons. Les gens sont prêts parce qu'ils veulent s'adapter, bien-aimés, à Babylone. Fais partie, frère ou sœur, fais partie des gens qui disent, si je t'oublie Jérusalem, si j'oublie le standard de Dieu, si j'oublie le modèle de Dieu, si j'oublie Jésus-Christ, ben Dieu oublie moi aussi. Refuse d'adorer Dieu dans une terre étrangère. Refuse. Car tu vas t'éloigner de lui. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, ne nous laissons pas voir par l'adaptation. On pense que puisqu'on est diacre, on est chantre, on fait ce qu'il faut. Maintenant, quand Dieu te demande plus, tu ne l'entends même pas. Parce que tu es tellement convaincu que tu fais déjà le maximum et tu n'écoutes plus Dieu qui te demande plus parce que tu es convaincu du maximum. Ça, c'est toujours Babylone. Tu t'es adapté à toi-même. tu t'es adapté à toi-même. Et c'est le plus dangereux des adaptations. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on a arrêté Dieu quelque part. Surtout dans les églises comme la nôtre, où il y a des procédures déjà fixées, il y a tout est fixé, les programmes sont fixés, ben on a tendance à croire qu'on fait le maximum, on fait ce qu'il faut. Tu connais déjà les chants en tête. Mais on a tendance à croire que j'ai déjà fait ce qu'il faut, j'ai été dans les répétitions, je connais les chants. Non, Dieu veut qu'avant qu'on chante, qu'on lui dise « Seigneur, je veux t'adorer toi en esprit en vérité. Je ne suis pas un professionnel. Je veux t'adorer toi en esprit en vérité. Je veux te rencontrer à travers ce que je fais. Tu es prédicateur, tu as préparé les versets, tu as tout préparé et c'est bon. Non, bien-aimé. Même Paul, que Dieu a utilisé puissamment dans Éphésiens 6, 18 à 19, il dit aux chrétiens de prier pour lui, prier pour moi, afin que j'annonce l'évangile tel que je dois l'annoncer. Paul demandait cette prière-là, alors que c'était quelqu'un déjà expérimenté dans la prédication. Mais il demandait qu'on prie pour lui parce que ce ne sont pas des choses humaines, ce sont des choses spirituelles, c'est lié. Bien, mais quand je cite Jérusalem, comprenez maintenant Jérusalem, pendant que je cite ça, ça veut dire le modèle de Dieu, le niveau que Dieu veut, dans lequel Dieu se trouve. C'est ça, Jérusalem. Et Dieu veut parler au travers de nous, mais ce n'est pas notre éloquence qui compte, c'est ce que Dieu veut dire qui compte. Et même si tu as préparé ta prédication, tu dois penser à demander à Dieu de parler. Tu ne dois pas croire que tes paroles à toi vont convaincre les gens. Tu dois savoir et reconnaître que seul l'Esprit Saint peut toucher un cœur. Et pour cela, il faut qu'il te remplisse, il faut qu'il fasse son travail. Et quand on est dans des églises déjà organisées, les gens ne pensent plus au Saint-Esprit. Ils vont faire le travail comme dans Babylone, comme dans le monde. J'ai étudié, j'ai préparé. Maintenant, je viens présenter ma thèse de doctorat. Je viens présenter mon travail. Non, bien-aimé. Si je t'oublie, Jérusalem. Vous savez pourquoi Paul priait pour cela? Paul était conscient qu'il était inférieur à Jésus. Or, il devait produire Jésus. Comment il allait faire? Il fallait que Jésus vienne en lui. Mais là où quelqu'un pense déjà qu'il fait ce qu'il faut, il ne peut plus demander l'aide de Jésus. Il pense qu'il est déjà fort dans le département dans lequel il est dans l'église. Il ne peut plus demander l'aide. Et même quand on viendrait le conseiller, il dira, mais oui, mais toi, tu ne connais pas. Il ne va pas écouter même les conseils parce qu'il pense déjà à faire ce qu'il faut. Mais Paul était conscient qu'il était inférieur à Dieu. Or, Dieu veut, à travers Paul, se produire lui-même. Donc, Paul était conscient que, lui étant inférieur à Dieu, il ne pouvait pas produire Dieu. Même s'il avait toute la connaissance, une grande connaissance, même si Dieu il avait fait des miracles, mais il était conscient que Dieu veut se manifester à travers lui auprès des autres. Mais lui, il était conscient que lui ne pouvait pas donner Dieu aux autres. Dieu n'avait que lui-même à le faire à travers Paul. Et c'est pourquoi il était obligé de demander la prière aux chrétiens. Priez pour moi pendant que je prêche, que Dieu lui-même s'annonce aux autres. C'est la vérité. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche des hommes qui croient en lui, qui acceptent, qui reconnaissent qu'ils sont inférieurs à lui et qui ont besoin de lui. C'est ce qu'il cherche. Des gens qui reconnaissent qu'ils sont perdus sans lui et qui disent, Seigneur, sauve-nous par grâce. Agis par grâce. Nous n'avons pas ton niveau, mais tu peux agir à travers nous à ton niveau. Jésus nous a promis dans Jean 14, il a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. C'est ça, Jérusalem, le niveau de Dieu, les promesses de Dieu, la Bible. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous venons de lire deux textes, hein. Pierre et Jean étaient en train de se promener vers le temple. Ils voient le mendiant, infirme, qui demandait l'aumône. Pierre et Jean ont dit, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, je te le dis, lève-toi et marche. Il a marché, ça a créé le remue-ménage. Les gens sont venus. Quand les gens sont venus, Pierre en a profité pour prêcher l'évangile. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bénissez seulement les gens. Quand Dieu va les bénir, ils vont se rendre compte que notre Dieu est tout-puissant, ils viendront. Ils ne veulent plus qu'on prêche l'évangile direct. Pierre a prêché l'évangile direct. Jean-Baptiste a prêché l'évangile direct. Vous savez que Jean-Baptiste, les gens même venaient à lui, il dit, mais pourquoi vous venez à moi? Changez de cœur. Mais aujourd'hui, quand nous voyons du monde venir, nous acclamons Dieu. Non, on doit poser la question, mais pourquoi tu es venu le dimanche là? Si tu es venu pour écouter la musique, change de cœur. Ce n'est pas la musique qui sauve. Si tu es venu pour voir un homme ou une salle, vous savez, bon, nous on est dans des configurations liées au chauffage, mais dans les milieux où il fait chaud, c'est la climatisation qui fait la différence. Donc si tu es venu pour la clim peut te frigorifier et que tu meurs, mais c'est Jésus qui donne la vraie vie. Change de cœur. Nous devons être comme Jean-Baptiste. Si tu ne veux pas de Dieu, au revoir, jusqu'au jour où tu voudras de Dieu. Si tu veux de Dieu, il est là gratuitement pour toi. Et il t'aime beaucoup. Un homme pensait être bon dans Luc 18. Il dit à Jésus, bon maître. Jésus dit, mais tu m'appelles bon. Donc bon, il n'y a que Dieu qui est bon. Donc si tu m'appelles bon, donc tu dois te penser que moi aussi je suis Dieu. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans le royaume de Dieu? Jésus dit, mais tu appliques la parole. Oui, mais l'homme a dit, mais j'applique déjà. Ça y est, je suis au niveau que Dieu attend. Jésus dit, non, il manque une chose. Il manque une chose. Bien aimé, sachez que pour nous tous, hein, il manquera toujours une chose. Tout lâcher entre les mains. Quoi que tu fasses, Dieu te demandera toujours, lâche tout. Tu as beau être pasteur 40 ans, Dieu te demandera toujours, lâche tout. Quoi que tu fasses, il reviendra toujours avec cette phrase-là, lâche tout et suis-moi. Et Jésus dit au monsieur, non, mais s'il vous plaît, l'homme parfait, il manque une chose. Mais qu'est-ce qui manque? Eh bien, va tout tes biens, donne aux pauvres et suis-moi. Ah! Il est écrit, le monsieur s'en est retourné tout triste. Il croyait être à Dieu, il n'était pas à Dieu. Il faisait des actes religieux. Dieu veut prendre toute la personne. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette femme qui avait soutenu son mari pasteur en Inde. Vous savez, quand il y a des endroits d'évangélisation, hein, mais l'Inde, ce n'est pas n'importe quoi. Hein, où tu vas voir les fétiches vendus en face comme ça, dans les marchés tranquillement. Là où on adore les vaches. Ce n'est pas n'importe quel pays. Mais cette femme-là a tenu 40 ans à soutenir son mari. 40 ans de ministère. Mais quand son mari est mort, elle est devenue esclave des séries télévisées. Et ses petits-enfants lui disaient, « Mais mamie, c'est toi qui nous as amenés au Seigneur. Comment tu ne veux plus de Dieu? Tu es bloqué, scotché devant la télévision. Comme beaucoup de chrétiens scotchés devant le feu de l'amour. Des trucs qui égarent les pensées. Les frères à Scott ou bien, je ne sais pas, Scott. » Des trucs où les gens se trahissent, se trompent, adultèrent à gauche, à droite, allez. Même quand elle fait les courses, elle a mis l'enregistrement. Mais mamie, qu'est-ce qui se passe? Elle ne répondait même rien. Parce qu'elle était en colère contre Dieu. Dieu lui a pris son mari. Donc pendant 40 ans, cette femme, devant tout le monde, paraissait être la femme parfaite qui prêche Dieu, qui soutient les pauvres, qui aide. Mais en réalité, elle faisait tout ça parce que son Dieu, c'était son mari. Le jour où on lui prend le mari, c'est fini. Et il est écrit dans la Bible, il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Tout sera mis à nu. c'était cacher les vraies intentions de cette femme. Par tout ce qu'elle faisait, on ne pouvait pas savoir qu'en réalité, elle ne servait pas Dieu. Jusqu'à ce que Dieu montre qu'elle s'était adaptée à Babylone. Elle servait son mari, elle ne servait pas Dieu. Et ce jeune homme riche pensait être au point. Jésus lui dit, non, il te manque une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. N'existe plus. Voilà ce que Jésus veut lui dire. Il te manque une chose. N'existe plus. Que Dieu existe maintenant à ta place. Bien-aimé, c'est ça le christianisme. Au cas où tu ne savais pas ça, il y a un animateur radio qui a commis l'erreur de m'inviter. Enfin, on s'est mis d'accord pour que j'intervienne le dimanche matin en Guyane. Et le monsieur, son système, c'est les gens appellent le matin. Voilà, je veux qu'on prie pour la famille Intel, la famille Germain, la famille Location, la famille. Voilà, je veux qu'on prie pour ma fille qui veut accoucher. Je veux qu'on prie. Et lui enregistre. Après, à un moment donné, parfois, il fait aussi des appels de fond. Moi, je ne savais pas qu'il faisait des appels de fond. Je savais qu'il faisait seulement prier comme ça. Et la veille, je me suis dit, là, je vais prêcher Jean 8, 23, 24. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez dans votre péché. Je vais bien expliquer que tout homme a un problème. Il a le mal en lui, il a le péché. Bien-aimé, nous ne flattons pas les gens pour qu'ils viennent à l'église. Nous disons aux gens que vous avez un problème. Nous tous, nous avons un problème. Et la vieillesse est la preuve que nous avons un problème. La mort est la preuve que nous avons un problème. Les soucis de la vie sont la preuve que nous avons un problème. C'est que le péché est en nous. Et c'est ce péché qui nous détruit. Et il y a un qui est venu prendre nos péchés pour nous sauver, c'est Jésus. Alors nous disons à chacun, viens à Jésus afin qu'il prenne ton péché et que tu sois sauvé. C'est toi qui as besoin de Dieu et non Dieu a besoin de toi. Alors, ce système de radio qu'on trouve aussi dans les pays africains, notamment le Congo, les gens appellent, priez pour moi, je vais au travail. Priez pour moi, j'ai un problème avec mon patron. Bien-aimé, quand je suis arrivé, il y a eu 6 appels déjà à ma présence. Priez pour ceci. Maintenant, quand on m'a donné de prêcher ce que j'avais à prêcher, après, il n'y a plus eu d'appel, un seul seulement, bien-aimé. J'ai dit que Dieu n'était pas une banque. Il n'était pas un hôpital. Dieu, c'est notre sauveur. Il nous dit dans sa parole qu'on a un problème. On a le mal en nous. Et ce mal-là nous détruira, même si on prie pour nous. Nous ressemblerons à quelqu'un qui veut mettre de l'eau pure dans un verre qui contient déjà du pétrole. Même s'il remplit le verre, le pétrole va polluer l'eau. Il faut d'abord qu'il renverse le pétrole qui nettoie le verre. Et c'est ce que Dieu veut faire. Avant de te guérir, avant de faire des bonnes choses dans ta vie, il veut d'abord te sauver toi-même. Jean 8, 23, 24. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez dans vos péchés. Après cela, aucun appel. J'ai dit, ah, donc ils ont bien entendu. Revenons à Jérusalem. Ce que Dieu veut réellement, c'est que nous puissions nous livrer à lui parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous a fait, qui nous a créés. Ce que Dieu veut vraiment, ce n'est pas remplir les salles pour faire des cultes. C'est être de vrais serviteurs et servantes de Dieu. Des outils, des instruments complètement donnés à lui pour le servir. Et cela se manifestera partout où nous sommes. Vous savez, il y a une grande différence entre les anglophones et les francophones. C'est que les francophones, dès qu'ils deviennent chrétiens, ils veulent bosser dans les 4 murs qu'on appelle l'église. Vous allez voir un grand homme d'affaires francophone, dès qu'il devient chrétien, il cherche à être diacre. Il va chercher à être ancien. Mais un homme d'affaires américain, quand il se convertit, il veut que dans ses affaires, Jésus soit glorifié. Il ne va pas se précipiter à vouloir être diacre, ancien. Il veut que dans ses affaires, on voit Jésus. Un maçon américain, il se convertit, il va vouloir que dans la maçonnerie, les gens voient que Jésus est puissant. Et c'est ce qui montre la gloire de Dieu. Le problème des francophones, c'est la salle. Ils veulent que dans la salle, on les voit. Les francophones aiment tout ce qui est oratoire, public, où ils prennent de l'importance devant les gens. Mais les anglophones veulent réussir. Et ils savent que le but de Dieu, c'est sauver l'humanité. Ce n'est pas glorifier une salle, c'est sauver l'humanité. Et donc, il va vouloir que là où il travaille, les gens connaissent Jésus. Dans son travail, qu'il le fasse très bien, que les gens se réalisent qui est Jésus. C'est ça, la réalité. Et on se bat pour une question de salle, une question de poste. Mais la vraie foi, c'est ce que Jacques nous a dit, c'est de venir en aide aux veuves, aux orphelins. C'est ça la vraie foi. Être capable de partager la foi qui sauve à son voisin. C'est ça la vraie foi. Être capable de vivre selon l'évangile, malgré les circonstances difficiles. Vous savez, quand les communistes n'entrent pas dans les baptêmes, quand ils sont invités, les communistes aussi sont invités. Les communistes aussi perdaient leurs parents. Hein? Mais malgré ça, les communistes, fidèles à leur idéologie, qui ne croient pas en Dieu, ils n'entrent pas dans les bâtiments catholiques. Et vous verrez nulle part les gens blâmer les communistes parce qu'ils n'entrent pas dans les bâtiments catholiques. Mais ça sera toujours au milieu des chrétiens qui sont évangéliques en train de blâmer les autres. Ah oui, mais il fallait entrer quand même, il ne fallait pas choquer. Hein? Non, il ne faut pas entrer. C'est un lieu de débauche spirituelle. Mais je sais que ça va choquer, mais on n'a pas le choix. Vous savez, les couteaux des médecins, c'est choquant quand on les voit, mais ça soigne. Voilà. C'est ça la réalité. Il n'y a que la vérité qui sauve. Ou tu veux la vérité, ou tu veux le mensonge. La vérité, c'est ce qui est écrit. On n'a pas à se mélanger avec les infidèles pour un culte disparate. La vérité, c'est que Dieu veut que nous soyons à son niveau à lui. Mais nous ne pouvons pas de nous-mêmes, c'est lui qui va nous aider. Mais au moins, nous devons faire le choix de l'excellence. Choisis l'excellence. Fais comme ces Juifs. Ils ont dit, c'est le temple, c'est à Sion, c'est à Jérusalem. Nous étions tristes en nous souvenant de Sion. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas tristes de voir l'état de l'humanité, qui ne sont pas tristes de voir l'état de l'Église, parce qu'eux, ils ont un poste, parce qu'eux, ils prêchent, parce qu'eux, ils chantent. Et ils ne sont pas tristes. Comme me racontait dans une église à Martinique où il y a un homme qui veut se faire baptiser, ça fait une année, le pasteur l'oublie toujours. Et quand il se fait baptiser ailleurs, il vient dire au pasteur, « Je me suis fait baptiser. » »« Ah, c'est bien. » Donc le monsieur, il se dit, « Pasteur, mais il n'est pas triste de voir une âme qui peut se perdre. » Quand j'étais au Maroc, nous avions dans notre organisation, c'était une organisation, une vieille organisation protestante, il n'y a que le pasteur qui pouvait baptiser. Mais il y avait 6 paroisses. Le pasteur habitait que Casablanca. Donc pour baptiser, il fallait attendre parfois 6 mois, 8 mois. Mais il y a des frères, un jour, on avait souvent une fois par mois, par an, ou 2 fois par an, les réunions de toutes nos paroisses, avec 5 ou 6 personnes de chaque paroisse. Et une réunion s'est transformée en tribunal. Pourquoi? Parce que les frères d'Agadir avaient baptisé quelqu'un. Donc ça s'est transformé en tribunal, et le pasteur les a assommés devant nous tous parce qu'ils ont baptisé quelqu'un. Maintenant, le frère d'Agadir, un tribunal, on laisse tout le monde parler aussi. Le frère Henri Songoti, il est passé devant pour justifier pourquoi ils ont baptisé le frère. Ils disent, bon, le Seigneur nous a recommandé de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser. Bien aimé, nous, on était les journalistes de l'époque, les chrétiens un peu, mais on suivait quand même les choses. Le frère dit, Jésus nous a demandé d'aller faire de toutes les nations des disciples et de sauver les gens pour les amener au ciel. Nous avons évangélisé. Ce bien-aimé-là s'est converti. Après un moment, il nous dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on ne me baptise pas? On lui explique qu'on doit faire appel au pasteur. On fait appel au pasteur. Le pasteur dit qu'il vient dans 6 mois. 6 mois après, on cherche le pasteur, on nous dit qu'il est parti en vacances en métropole, il reviendra après. Le frère qui s'était converti nous a dit, mais bien-aimé, si Jésus revient, je veux aller où? Alors frère, qu'est-ce qu'on devait faire en ce moment-là? Laissez que le frère rate l'enlèvement. Ah, nous, on était les anti-gouvernements de l'époque. On a acclamé le frère. On a baptisé. Oh! C'est ça la vraie foi. Le pasteur, avec sa religion, il était honteux parce qu'il pensait assommer le frère. Mais il était mal tombé ces jours-là. Le frère, on dit, on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas laisser cet homme-là louper l'enlèvement. On a acclamé. Bien-aimé, la vérité triomphera toujours. La religion sera confondue. Revenons, bien-aimés, au standard de Jésus. Que personne ne nous fasse oublier ça. Je suis d'accord, bien-aimés, nous ne vivons pas ce qui est écrit là. Nous ne vivons pas ce que Philippe a fait. Mais nous devons au moins avoir le souci de ça, dire, mais Dieu, nous voulons voir ta gloire, nous voulons vivre ça. Où sont des Paul aujourd'hui? Où sont les Edmé Cottier, cette Suissesse qui, à 23 ans, est partie servir Dieu en Angola? Toute sa vie, elle a vécu sans se marier. Où sont de telles personnes? Des gens qui se sont fait manger par les Indiens quand ils évangélisaient au début. On n'en a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde pense à la dernière paire de chaussures. Tout le monde pense avoir un bureau climatisé pour servir Dieu. Il n'y a plus de gens qui disent comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout le monde pense au CDI. Il n'y a plus de cascadeurs. Comment on va tourner les films, bien-aimés? Il n'y a plus de cascadeurs chrétiens. Les gens se sont babylonisés. Il faut le CDI. Ils se sont adaptés à chacun de leur pays. Ils se sont adaptés. Les chrétiens qui sont en Afrique du Sud se sont adaptés à l'Afrique du Sud. Les chrétiens qui sont en France, ils sont adaptés à la France. Mais ces juifs-là ont dit, nous sommes à Babylone, la capitale de l'humanité, mais nous refusons de chanter les cantiques de l'Éternel à Babylone. Nous refusons de nous adapter. Les chrétiens du Maroc qui prient individuellement, en groupe quoi, subissent la pression, il faut qu'ils se rattachent au mouvement écuménique pour être protégés par... pour ne pas être dérangé par le gouvernement marocain. Parce qu'au Maroc, les cultes sont interdits. Le seul culte autorisé, c'est les catholiques et les protestants. Donc il faut se rattacher à ce mouvement écuménique. Et on m'a appelé pour me demander mon avis. Moi, j'ai dit, non, vous ne vous attachez à aucun mouvement. Oui, mais quand la police va venir, on va faire quoi? Vous prenez Exode 20. Parce que quand la police va venir, on dit, mais moi, j'ai dit, dites aux policiers, vous êtes des chrétiens. Maintenant, quand vous vous réunissez pour discuter de votre foi, quel mal vous avez fait? Mais oui, mais ils vont nous dire, mais pourquoi nous n'allons pas prier dans les bâtiments catholiques? Moi, je dis, vous prenez Exode 20. Vous le faites lire aux policiers. Monsieur le chef, lisez ce qui est écrit là. Il nous est interdit de prier les statues. Est-ce que vous nous permettez d'aller prier les statues? Le policier lui-même vous dira non. Parce que même dans l'islam, on est contre les statues. Montrez-leur les écritures. Faites-leur comprendre que le catholicisme, ce n'est pas le christianisme. Et ils vous laisseront tranquille. Et ils comprendront quel est le vrai christianisme. Parce que beaucoup ne le savent pas. Beaucoup pour eux, catholicisme égale christianisme. Mais comment voulons-nous toucher les gens? Les policiers viennent, ah non, voilà les papiers, nous sommes sous couvert des catholiques. Non, le policier dit bon. Mais là, quand vous démontrez tout ça aux policiers, ils se rendent compte qu'il existe une vraie foi en Jésus et des gens qui ne sont pas prêts à faire des compromis. C'est très important, bien-aimés, d'affronter, de ne pas se cacher. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent l'affrontement. Dès qu'il y a affrontement, ils fuient. On doit affronter et dire la vérité. S'il faut payer de notre confort, nous payons de notre confort, mais nous affrontons et nous disons la vérité. C'est très important que personne ne nous éloigne de Jérusalem, que personne ne nous éloigne de Jésus. Paul, en mourant, il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Que personne ne t'éloigne de Jésus. Pendant qu'il meurt, il dit, Timothée, que personne ne t'éloigne de Jésus. Joseph, pendant qu'il mourait, il dit aux gens qui étaient vivants, quand je mourrai, je sais que plus tard, Dieu vous sortira d'Égypte et vous amènera à Canaan, dans la terre de mes parents. Ce jour-là, prenez mes ossements, prenez mes os, allez enterrer ça dans la même tombe que mon père Jacob, mon grand-père Isaac et mon arrière-grand-père Abraham. Je vais être dans la même tombe que Hébron à Macpéla. 400 ans après, les Juifs sont libérés d'Égypte. 400 ans, ils se sont souvenus de leur ancêtre Joseph qui avait juré aux gens qui étaient vivants à l'époque. Moi, je veux l'endroit où Dieu a prévu pour nous, les Juifs. C'est la terre promise, c'est là que je veux. Et donc, dans leur difficulté là, en sortant d'Égypte, ils ont pensé à récupérer les ossements de Joseph. Joseph est entré en terre promise mort. Bien-aimé, vaut mieux entrer au paradis mort. Mais rester dans la stature de Jésus-Christ, que personne ne nous régresse. Restons dans le niveau du Seigneur. Même si on doit se retrouver à quatre dans ce lieu, restons dans le niveau du Seigneur. N'oublions pas Jérusalem. Même si on est pris à défaut aujourd'hui peut-être par le Seigneur, mais disons Seigneur, je n'oublie pas Jérusalem. Je préfère retourner à Jérusalem. Je ne veux pas oublier le niveau de Jésus-Christ. Je ne veux pas oublier la parole de Dieu. Revenons à cela. Que le Saint-Esprit continue le travail de cette prédication, parce que nous vivons ce temps-là où nous avons, l'Église est en train de s'y adapter et beaucoup de gens ont oublié le standard biblique. Ils ont oublié Jésus. Et ils sont dans les choses personnelles ou dans les choses de groupe, de mouvement. Ils suivent leur chair au lieu de suivre ce qui est écrit. Maintenant, nous ne sommes pas parfaits et nous demandons pardon à Dieu si nous ne sommes pas à la hauteur de ce qui est écrit, mais nous disons à Dieu, c'est ce que nous voulons. C'est ce qui est écrit que nous voulons. C'est ce que Philippe a fait que nous voulons. C'est ce que Paul a fait que nous voulons, même s'il a vécu des persécutions. Il faut savoir que là où il y a la lumière de Dieu, il y aura la persécution. 2 Timothée 3:12 dit que ceux qui cherchent à servir Dieu pieusement, dans la vérité, ils seront persécutés. Eh bien, il faut intégrer tout cela et marcher en acceptant ces persécutions. Refuser la persécution, c'est refuser aussi la vérité. Ça va ensemble. Et toi qui es là, bien-aimé, qui étais là dans une logique personnelle, dans une logique de Babylone, donne ta vie entièrement, à 100% à Jésus. Nous allons prier. Et si tu es dans ce cas-là, et que tu veux donner ta vie aujourd'hui, dire maintenant moi, je veux que Jésus dirige toute ma vie, tu passeras devant pendant que nous chantons afin que nous puissions prier ensemble. Nous allons chanter tel que je suis sans rien à moi. Tel que nous sommes, Jésus nous accepte. Jésus ne cherche pas les parfaits. Mais il veut qu'on choisisse le parfait. Il veut qu'on choisisse Jésus, qu'on le choisisse lui, qu'on choisisse sa hauteur. Qu'on choisisse Jérusalem, qu'on choisisse son niveau à lui. Il veut qu'on lâche tout et qu'on le suive, qu'on n'existe plus que lui qui existe. Mais il nous prend tel qu'on est et c'est lui qui fait cette œuvre-là et nous transforme. Donc pendant que nous chantons tel que je suis, si tu es dans ce cas-là où tu ne savais pas trop pourquoi tu venais parce que tu craignais peut-être Dieu comme ça vaguement, c'est le moment de se convertir vraiment à Jésus et nous t'inviterons à passer devant pour la prière au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité.